à l'école de la radio. L'émission que vous allez écouter a été réalisée dans le cadre du projet Radio Inter-École, porté par la communauté de communes Cœur de Garonne, pays du Savès. Un projet mené en partenariat avec les Chemins Buissonniers et Médias Communs. Avec la complicité de Sandrine Dubos, enseignante à l'école de Riom pour la classe de CM2, nous avons interviewé deux filles de résistants de l'Amicale du Maquis de Riom le mercredi 15 juin 2017. Madame Chiffre et Madame Trull ont ainsi répondu aux questions des enfants sur leur adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale et leur implication en tant que jeunes filles dans la résistance.
Appelez-vous.
Moi, je m'appelle Madame Chiffre, mon nom de jeune fille, Bergeau, Blanche.
Moi, je m'appelle Annie Truls et mon nom de jeune fille était Anne Garrigue.
Où habitez-vous?
Moi, à Muret. Et je suis née à Muret.
Et moi, j'habite Balma.
Quel âge avez-vous au début de la guerre?
Tout à fait au début de la guerre, j'avais que 12 ans. Et pendant la guerre, 14, 15 et 16 ans.
Quant à moi, je suis née en décembre 1943, donc quand la guerre a commencé, je n'étais pas encore de ce monde. Je n'étais qu'un petit bébé en décembre 1943.
À partir de quelle date êtes-vous rentrée dans la résistance?
Normalement, je ne suis pas entrée dans la résistance parce que j'étais une adolescente. C'était mon papa qui était un chef dans la résistance et ma maman qui l'aidait. Voilà, alors j'ai commencé d'entendre parler de la résistance à l'âge de 14 ans. Et je devais, tout ce que je voyais et entendre, ne rien dire, ne pas parler, ne pas raconter quoi que ce soit, même à mes meilleures copines. Parce que c'était très dangereux.
Quant à moi, évidemment, je vous ai dit que j'étais née en 1943, donc je n'ai pas fait de la résistance, mais mes parents et mes grands-parents en ont fait. Parce que mes grands-parents étaient d'origine polonaise. Donc ce qui fait qu'ils ont caché beaucoup de juifs pendant la guerre, et puis des soldats anglais également.
Votre famille était-elle au courant?
Que mes parents étaient à la résistance? Mes grands-parents, oui, mes parents, oui, mais après, personne d'autre ne le savait. Enfin, il valait mieux pas.
Ah oui, il fallait pas les dire à tout le monde, ça. C'était secret, voilà. Très secret. C'était même très dangereux, si on parlait. On pouvait être déporté, on pouvait être torturé. On ne savait pas.
Pourquoi êtes-vous rentrée dans la résistance?
Je ne suis pas entrée dans la résistance parce que j'étais adolescente. J'ai suivi le vœu de mes parents. C'est tout.
Quant à moi, évidemment, moi, je ne voulais pas. Mais mes parents et mes grands-parents sont rentrés à la résistance parce qu'ils voulaient que le pays reste français. Voilà, c'était très, très important.
Quelle action vos parents ont menée?
Mon père était un des plus grands chefs et ma maman suivait les directives de mon papa. Moi, je n'étais qu'adolescente. J'aidais. Avec la bicyclette, j'allais porter des messages. Alors, pour ne pas qu'on les trouve, si j'avais été arrêtée, à l'époque, au guidon, il y avait un morceau de cuir qui cachait le guidon et il y avait un trou. Le guidon était percé. Je mettais les messages là-dedans. Ça fait que si l'on m'arrêtait, on ne trouvait rien. On me fouillait, mais moi, je n'avais rien. Voilà. C'est tout ce que je pouvais faire. À 14, 15, 16 ans, on ne fait que ça.
Est-ce que vous saviez ce qui était écrit sur les messages?
Je ne le lisais pas, mais on me l'avait dit avant de partir quand même. Mais je savais que c'était très dangereux. C'était pour prévenir quelqu'un. D'avoir une réunion clandestine ou au contraire il allait être peut-être dénoncé, qu'il fallait qu'il parte se cacher ailleurs, c'était, ou alors c'était pour des armes qu'on allait parachuter et à telle heure, à tel endroit, et voilà, c'était ça.
Il y avait aussi autre chose, il y avait des gens qui avaient des brouettes à l'époque. Ils mettaient de la paille dans la brouette et dessous, entre la brouette et la paille, ils cachaient des armes et souvent ils faisaient un peu les idiots. Les Allemands disaient, oh, celui-là, il est un peu fatal, laissons-le passer. Il passait avec les armes, il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Et les jeunes filles, elles avaient des vélos, il y avait des sacoches. Une de mes tantes le faisait ça, et comme elle était très jolie, elle passait devant les Allemands, et leur faisait, oh, quelle est jolie cette jeune fille. Et là, elle souriait, et elle passait aussi comme Blanche avait des messages. Bon, mais mon grand-père était déjà âgé, donc il ne pouvait plus repartir à la guerre. Et il surveillait les lignes, le chemin de fer, parce que Toulouse-Urium, il y avait à l'époque une ligne de chemin de fer. Et ma maman, qui était jeune, qui avait à peu près le même âge que Blanche Bergeau, pareil, elle transportait des messages. Voilà.
À quel réseau appartenaient vos parents ?
Mon père était déjà un chef dans la résistance. Il y avait un grade en plus, et c'était le réseau de Charles de Gaulle à ce moment-là.
Pareil, mon père avait son idéal, c'était de Gaulle.
C'était Charles de Gaulle. On suivait. Charles de Gaulle est parti, il était condamné à mort par le gouvernement actuel, qui était le gouvernement de Pétain, et il a été obligé de partir en cachette, c'était en Angleterre, et c'est de là-bas qu'il a lancé un appel, l'appel du 18 juin, et donc on suivait tout ce qui se passait depuis l'Angleterre par des réseaux secrets de la résistance. Chaque région avait un chef dans la résistance, et ils communiquaient faire une armée qui était clandestine.
Quels étaient les lieux d'action de vos parents ?
Mon père, il avait des hommes, c'était un officier, il avait des hommes, des autres soldats, d'autres officiers qui avaient des ordres de ravitaillement, d'aller savoir s'il y en avait qui étaient pour nous et surveiller.
Alors moi, écoute, mais comme je te disais tout à l'heure, mes grands-parents et mes parents, évidemment, surveillaient aussi les environs et ils se méfiaient des voisins parce que tous les voisins n'étaient pas forcément pour la résistance parce que mes parents habitaient le Lerm à l'époque et il n'y avait pas beaucoup de résistants au départ. À la fin, il y en a eu beaucoup, mais au départ, ils n'étaient pas nombreux parce que c'était très, très dangereux. Voilà.
Oui, des petits-enfants qui ont été déportés.
Il y en a eu ici à Rion, hein. Une petite fille qui avait 6 ans.
Hein. Ils sont pas revenus. Vous
avez vu qu'il y a une petite, vous avez vu la petite plaque il y a quelques années, on l'avait inaugurée avec le maquis de Rémy. Et la petite fille, ses parents et la petite fille, le maire de l'époque avait gardé les bijoux de ces gens-là. Et il y a une dizaine d'années, 10 ou 12 ans, je ne sais plus exactement, un des neveux de ces gens-là a eu connaissance de cette chose-là et est venu sur Rémy. Et le maire qui avait à l'époque, le maire, quand ça s'est passé ici, a remis tous ses bijoux à ce monsieur. C'était très, très surprenant parce qu'il venait, c'était un monsieur qui habitait l'Amérique, qui est venu exprès ici. Elle avait 5-6 ans, la petite. Et au Lerm, il y a deux ados, deux petits jeunes qui sont partis et on n'a jamais su où ils ont atterri, on n'a jamais su ce qu'il en est advenu, ni des parents, ni des petits garçons qui allaient à l'école, qui avaient 5-6 ans. Personne n'a jamais su où ils ont disparu. C'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant, hein. Très vigilant.
Comment s'organisaient vos parents ? Quel était le rôle de votre père ?
Alors, mon papa était un des grands chefs de la résistance, qui s'appelait le commandant Henri Chiffre, donc, et qui était appelé au maquis, et il s'organisait clandestinement de récupérer des gens qui voulaient faire de la résistance, et par la suite, après, aller au maquis. On faisait aussi beaucoup de parachutage, parce que nous n'avions pas d'armes, nous n'avions pas de munitions. Ce sont les Américains et les Anglais qui, par des radios clandestines, qui étaient formées en France, et qui nous envoyaient des parachutages ici, dans la région, dans des coins cachés, des fermes. Il fallait que les fermiers soient avec nous. Hein. On parachutait la nuit des armes, des vêtements, beaucoup de choses qu'on avait besoin pour entrer au maquis à la suite. Parce qu'il était décidé, De Gaulle avait décidé que le 6, il n'avait pas encore fixé de date, hein, mais que le 6 juin 1944, quand il y a eu le débarquement en Normandie et dans le Nord, il fallait que nous, on parte au maquis.
Combien y avait-il de personnes dans le maquis de Rion ?
500, non ?
À peu près.
500 hommes avec les officiers. Les officiers.
Et est-ce que votre père faisait partie d'un autre réseau ?
Oui, avant de partir au maquis, il faisait deux choses. Il avait le maquis et il était au réseau Charette. Voilà. Alors ce réseau Charette, c'était un neveu du général de Gaulle qui avait créé ce réseau et il prospectait dans toute la France. Voilà comment, sachant que mon père, avec d'autres officiers, créait le maquis de Rion, il était venu voir l'emplacement à peu près de ce maquis.
Quelle était la part des femmes dans la résistance?
Vas-y, parce que tu connais
les dames. Les dames travaillaient dans l'ombre, évidemment, voilà. Parce qu'à l'époque, les dames, elles s'occupaient du ménage, de faire aider le mari quand il y avait des fermes, mais après, c'était tout. Et elles ont fait beaucoup de choses pendant la résistance. Oui. Elles ont caché pas mal de choses, se sont occupées des enfants. Quand les maris étaient pris dans des convois ou ailleurs, c'est elles qui assuraient le bétail, qui assuraient la ferme. Parce que dans cette région, il faut penser quand même que c'est une région très agricole. Donc elles ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Et elles ont alimenté en vivres les maquis.
Parce qu'il fallait manger.
Et en réalité, elles ont beaucoup travaillé. Et puis après, il y a des dames aussi qui se sont retrouvées avec des maris qui étaient en Allemagne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il fallait qu'elles fassent vivre la famille. Alors, il y en a qui sont allées travailler dans des usines, quand elles n'avaient pas de ferme. Et celles qui étaient dans les fermes, elles se faisaient aider par d'autres voisins qui venaient les aider pour les récoltes, pour qu'elles puissent vivre.
C'était des prisonniers de guerre. Ils avaient été à la guerre de 39
à 40.
Ils avaient été faits prisonniers. Il y en a eu 1 700 000, je crois, prisonniers. 1 million. Rien que dans ma famille, j'en avais 3. Mon papa et 2 oncles.
Il faut dire aussi que dans le maquis, il y avait des gens de toute confession.
Et de toute religion.
De toute confession. Il y avait des catholiques, il y avait des musulmans, il y avait des israélites, il y avait
des juifs.
Des gens, oui, des israélites, des gens qui n'avaient pas du tout de religion, et ça se passait fort bien. Il faut penser à ça, parce que leur idéal, c'était ça, que la France reste debout, comme elle était. Et c'est un message qui peut passer encore aujourd'hui, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit jaune, que l'on soit d'une religion tout à fait différente. Il n'y a pas de souci, il faut que l'on s'entende autrement, ça ne marche pas bien.
C'est vrai qu'on s'entendait bien à cette époque-là.
À quelle date la ville de Riom est-elle passée en zone occupée?
En
42. 41, quand les Allemands ont occupé, d'abord ils avaient occupé la région de Paris, l'Alsace et la Lorraine,
42.
Puis ils sont descendus par ici, et nous on était la région libre qu'ils appelaient. Mais après, ils sont 42 et par là, ils sont venus. 42.
La vie a-t-elle changé pour les enfants et pour vous? Alliez-vous à l'école?
La vie continuait comme avant, avec la seule différence que nous avions des cartes pour l'alimentation, pour s'habiller, pour l'habillement. Le soir, à 10h, il fallait fermer les portes. Nous n'avions plus le droit d'être dans les rues. Les Allemands passaient... Et si vous trouvez dans la rue ou devant la porte, même il fallait fermer, même à cette époque-ci, qui fait jour à 10h, il fallait fermer contre vent, porte, tout. Bon, moi j'avais de la chance, j'avais un jardin, je pouvais aller dans un jardin. Mais ceux qui habitaient dans des immeubles, ils étaient enfermés complètement. Voilà, la vie n'était pas agréable, ni pour les parents, ni pour les enfants encore moins. Et puis, nous avions des tickets pour l'alimentation. Voilà, moi j'avais de la chance, étant J3 qu'ils appelaient, j'avais droit à de la viande une fois par semaine.
J'avais droit à de la phosphatine, ça s'appelait. Phosphatine, c'était une espèce de poudre que nous achetions en pharmacie. Alors il paraît que je pleurais parce que j'avais faim. Et oui. Maman, depuis le Lerme, elle habitait le Lerme, elle a pris son vélo, elle est allée dans une pharmacie de Muret et on lui a donné de la phosphatine. Alors on mélangeait cette poudre avec du lait et ça faisait comme une grosse purée. Voilà. C'est pour ça aussi que j'en ai gardé les rondeurs, maintenant.
Oui, alors pas de chocolat, pas de beurre, parce que tout ça... Il n'y avait que le lait, parce que là, il y avait des fermes. Et encore, on s'amusait à faire du beurre en cachette, mais qui n'était pas tellement bien fait. Mais enfin, on a souffert, comme tout le monde, de l'alimentation. Et puis, on n'était pas libre. Dans les rues, il fallait faire attention. On était toujours surveillés, passés deux par deux, ils se promenaient dans les rues avec baïonnette au canon et si ça ne leur plaisait pas, ils t'arrêtaient, ils te posaient des questions, ils étaient les maîtres.
Quelle était la différence entre ceux qui vivaient dans la ville et la campagne?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ici c'était plutôt une région rurale, donc il y avait des fermes, il y avait des vaches, donc ils donnaient du lait, on pouvait faire du beurre aussi, comme on disait, il y avait de la volaille, il y avait des œufs. Donc on souffrait beaucoup moins. Dans les villes, évidemment, il y avait, comme vous disiez, Mme Bergeau, Blanche Chiffre, il y avait des tickets de rationnement. Et évidemment, celui qui avait de l'argent, Ils pouvaient acheter ce qu'on appelait au marché noir. Une douzaine de balais, mettons, à l'époque, c'était pas des euros, mettons, on va dire 2 euros, ils la vendaient 5 à 10 euros. Et celui qui n'avait pas d'argent, eh bien, il s'en passait, il regardait passer. Il mangeait un petit bout de pain parce qu'on voulait lui donner un bout de pain. Alors au jour d'aujourd'hui, quand on voit tout ce que l'on jette dans les cantines, et ça vous fera réfléchir, j'espère, avant de prendre deux desserts et d'en laisser les trois quarts, vous pensez qu'il y en a qui ont bien souffert bien avant et il y en a qui, encore des enfants qui souffrent au jour d'aujourd'hui, qui n'ont pas de quoi manger ni de quoi boire.
Moi, j'avais encore de la chance parce que j'avais de la famille, des frères à maman qui habitaient ici, les Aujouettes, ce qu'on appelait. Et moi, maman m'amenait chez eux pendant les grandes vacances et je me retapais.
Le programme scolaire a-t-il changé ?
Énormément. Moi, j'ai vu la guerre. Beaucoup ont fait comme moi. Après le brevet, on est resté parce que c'était trop dangereux. D'abord, les lycées ont été fermés par les Allemands. Comme beaucoup, et donc je ne suis arrivée que là. Bon, mais les programmes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Au début, on pouvait apprendre l'anglais avec l'espagnol, et puis une autre langue si on en avait envie. Quand les Allemands sont arrivés, l'anglais supprimé. Il fallait parler allemand, espagnol. Même si ça ne te plaisait pas, ça ne fait rien.
Est-ce que vous avez déjà été arrêtée ?
Non, j'ai eu cette chance. Parce que peut-être je ne serais pas.
Quels étaient les médias de l'époque ?
Des radios.
Des radios à Galène, les postes à Galène,
voilà,
ça s'appelait.
Voilà, et puis c'était régional, il n'y en avait qu'une, il y avait Radio Toulouse, c'est tout.
Et encore. Et les journaux, qu'est-ce qu'il y avait
les
comme
journaux ? Les journaux, c'était contrôlé.
Alors la dépêche.
C'était contrôlé, oui, c'était contrôlé par le régime de Pétain.
Comment s'exprimait la censure ?
La censure, il fallait se cacher si tu voulais faire. Mais il fallait faire attention avec qui tu parlais, avec qui tu pouvais dire quelque chose. C'était difficile. Et il fallait avoir confiance en personne. Les courriers, c'est quand, un peu comme moi je faisais avec la bicyclette, les courriers, c'était caché dans la culotte. Et les hommes, dans le slip.
Mais peut-être par rapport à la poste, est-ce que le courrier était lu
Oh ben c'est sûr, oui. Ouais. C'était sûr.
Oui. C'était, ah oui, le courrier était lu.
Était lu. Ah, il y avait oui, des passages qui étaient complètement annulés, cachés. Mais
il y avait des codes. Ça, c'est vrai qu'eux, ils avaient des codes entre eux. Hein.
Voilà, il fallait qu'ils soient initiés.
Mais il fallait les connaître, ces codes. Moi, ouais. Je ne les ai jamais. Même que j'ai été assez près de tout, mais je ne les ai jamais vus.
Comment les réseaux communiquaient entre eux ?
Mais, ils communiquaient un peu. Moi, je ne suis pas tellement au courant, parce que c'était assez secret. Bon, les messages écrits par papier, c'était comme je vous ai dit, et autrement, comme l'a expliqué Annie, dans les paniers ou n'importe. Maintenant, nous n'avions pas tout ce que vous avez maintenant. On n'avait pas
le téléphone.
Si on l'avait, mais on ne pourrait pas communiquer. Pour avoir une personne au téléphone, il te fallait... Tu avais une boîte comme ça, et avec un cadran, et tu décrochais, et tu tournais une manivelle, et on te communiquait la poste. À la poste, il y avait une salle où il y avait trois ou quatre dames, avec des micros, et qui te disaient, qu'est-ce que vous désirez ? Quel est le numéro que vous voulez ? Tu donnais ton numéro. Raccrochez, on vous rappelle. Au bout de, ça dépendait, 10 minutes, un quart d'heure, tu décrochais, et tu avais la personne que tu voulais. Avec qui tu voulais parler. Voilà comment ça se passait à l'époque. Mon papa, comme il avait un métier, nous avions le téléphone. À l'époque, à Muret, il n'y avait que 5000 habitants. Le téléphone, il y avait le docteur, le pharmacien, le vétérinaire, quelques personnes un peu riches, le maire et mon papa par son travail. Nous n'étions pas nombreux à avoir le téléphone. Ça vous... Pourtant, je ne suis pas Mathusalem. Hein.
Et votre père, il faisait quoi comme métier ?
Papa, il était agent général d'assurance. Puis, pendant la guerre, il n'y avait plus de travail parce que les voitures, il n'y avait plus de voitures. Les Allemands avaient interdit les voitures, on n'avait plus d'essence, on n'avait plus rien. Et il était officier dans des réseaux. Et après, il est parti au maquis de Riem. Voilà comment.
Quelles étaient les règles de sécurité ? De quoi vous méfiez-vous ?
De tout.
De tout.
De tout. Même dans ta famille.
De tout, même du chien qui aboie.
Vous avez peur, en gros, de vous faire attraper par les Allemands?
Et si, on en avait peur. Oui. Et puis, il n'y avait pas que les Allemands.
Oui.
Tu avais les Français, qui on appelait les miliciens, voilà. Qui avaient organisé une armée.
Absolument.
Une armée. Ils étaient habillés en militaire, ils avaient des armes, et ils étaient très méchants, des fois plus que les Allemands.
C'est vrai.
Ils ont fait beaucoup de mal. Et il fallait se méfier justement d'eux, plus que des Allemands. Parce qu'ils savaient te faire parler pour recueillir certaines choses. Tu comprends? Et il fallait se méfier. Même les enfants, on leur apprenait. Moi, combien de fois on me dit, tes copains et tes copines, rien.
Aucune information c'était, de ce qui se passe.
Ça faisait mal au cœur des fois, tu sais, parce que tu aimais ce garçon ou cette copine, enfin, cette fille qui était à l'école avec toi, au cours complémentaire. C'est vrai, il fallait rien dire. Parce que mes parents savaient que ses parents étaient miliciens ou collaborateurs. Collaborateur, c'était un mot qui existait à l'époque. Ça voulait dire que tu étais avec les Allemands et avec Pétain.
Ça arrivait beaucoup de fois, je suppose, que les Français vous dénoncent des personnes.
Oh, c'est arrivé souvent. Et moi, j'en connais qui ont été déportés ou arrêtés à cause de ça.
De la population vis-à-vis des Allemands et inversement.
La population, c'était partagé, c'est ce que je viens d'expliquer. Il y en avait qui étaient pour les Allemands et d'autres qui étaient contre les Allemands. Pourquoi on était contre les Allemands? Parce qu'ils nous avaient battus et qu'ils nous occupaient et qu'ils nous faisaient... On n'était pas heureux, on souffrait de l'alimentation, de tout. Et puis, c'était nos ennemis, voilà. Mais il y en avait qui étaient contents de les avoir. Alors, c'était partagé. Il y en avait une partie, c'était ça. Et l'autre, il fallait faire très attention, c'est ce que je viens d'expliquer. Il ne fallait pas avoir confiance, même si tu étais gentil, souriant, on se méfiait. Parce que c'était peut-être pour avoir quelque chose, pour savoir quelque chose. C'était difficile, hein.
Avez-vous des objets souvenirs de cette époque?
Les objets de...
Vous avez une...
Les médailles, tout ça. Médailles.
Voilà, ça, tu vois, je les voulais porter. Son papa, il l'a porté, ça. Ceux qui étaient au maquis, ils avaient ça, comme ça, tu vois. Tous, comme un brassard, tu vois, il y a encore on l'accrochait. C'est comme ça qu'ils étaient reconnus, qu'ils étaient au maquis.
Est-ce qu'on peut trouver des objets au musée de la Résistance à Toulouse?
Oui. Alors, il y a une veste de monsieur Neyman, une veste qui avait été parachutée par les Américains, donc il l'a donnée au musée de la Résistance. Il y a également un vêtement d'une ancienne déportée, et puis il y a également une machine à écrire. Mais j'ai un petit souci avec le musée de la Résistance, parce que Blanche me l'a souligné aussi, et moi il faut que je revienne au musée de la Résistance. Autrefois on avait une réunion, je n'ai pas voulu intervenir parce que ça aurait été trop dangereux. Ces objets-là, il n'y en a plus aucun d'exposé. Il a été répondu à Blanche que c'était dans les combles. Et que ma foi, c'était dans les combles. Et puis voilà, c'est tout. Alors c'est quand même des trucs de la région.
Les drapeaux.
Et le drapeau, oui, le drapeau, vous l'avez récupéré.
Oui, moi j'ai récupéré le drapeau. Que tu as, d'ailleurs.
Et ça, alors, il faut que je revienne au musée et que je demande vraiment que l'on me dise si vraiment c'est dans les combles. Je l'arrive, je suis désolée, mais vous les ressortez. Parce que c'est bien joli, mais quand même le musée de la Résistance, c'est quand même la région ici. Entre autres.
Le collège d'à côté s'appelle le collège Robert Roger. Est-ce que vous l'avez connu?
Beaucoup, très bien. Il a fait beaucoup de résistance avec papa. Mais étant docteur, il n'était pas tout le temps au maquis. Parce qu'il avait quand même son bureau de médecine. Et il venait surtout pour se renseigner, nous renseigner et soigner et guérir les maquisards. Et puis le docteur Schwartz, si je connais très très bien, que sa femme a été arrêtée avec l'épouse du docteur Roger, puis je ne sais plus qui c'est qui a eu ici à Rien. Et ils les ont embarqués sur une camionnette et ils les ont arrêtés. Et ça, c'était les miliciens qui les avaient arrêtés. Et elles ont tellement crié, elles ont tellement fait de bruit Ils sont allés plus loin, ils les ont fait descendre. Ils les avaient arrêtés. Ici, dans les rues d'Orient.
Comment peut-on résister aujourd'hui?
Moi, maintenant, à mon âge, je fais partie de beaucoup d'associations, justement, qui pour permettre de résister, à nous aussi. On fait partie de ces associations qui, justement, nous faisons en sorte que ça ne se reproduise plus, on espère, et on résiste comme ça, en se réunissant, on s'éduque, on fait attention avec d'autres, dans d'autres départements, on se reçoit et on essaie d'être un grand groupe dans toute Midi-Pyrénées pour essayer de résister s'il arrivait quelque chose.
Avez-vous un message pour que cela ne se reproduise pas?
Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, soyez très vigilants à tout ce qui se passe autour de vous. Comme je le dis et je le répète, que l'on soit de toute confession, voilà. De toute religion, de toute race, il faut que l'on s'entende.
Quelle action menez-vous pour faire vivre la mémoire de cette période?
Alors là, je vais t'expliquer. Nous faisons tous les ans des cérémonies. Avant, nous en faisions deux, maintenant nous n'en faisons qu'une, nous les regroupons parce que tout coûte cher et puis les gens disparaissent. Les plus anciens ont 90, 92 ans. Nous faisons une cérémonie le 9 août pour commémorer la mémoire du commandant de Lattre qui a été assassiné par la milice de Rien. Nous faisons donc la même journée un dépôt de gerbes au commandant de Lattre et nous allons après à la forêt de Saverre-Lautignac où là il y a eu un combat entre les Allemands et les maquisards et heureusement il n'y a pas eu de blessés ni de morts du côté français. Écoutez, ils sont partis dans les bois et ce commando là est parti ensuite dans le Tarn-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne ils sont partis unes 150 au moins 200 à la pointe de Grave au-dessus de Bordeaux
150.
À Soulac exactement et là à Soulac ils ont combattu sur le front du Médoc. Et ils se sont engagés, ces gens, ceux qui sont restés, se sont engagés pour toute la durée de la guerre. Ils ne savaient pas que la guerre allait durer, est-ce que 5 ans, 10 ans, ils ne savaient pas. Ils se sont engagés, ils ont combattu sur le front du Médoc, et pendant des années, ça fait 2 ans que nous n'y allons plus, puisque nous ne sommes plus invités, le monsieur qui s'en occupait est certainement a disparu, et tous les ans, nous allions là-bas, on se retrouvait parfois 800. Et là, on commémorait pas sur l'océan, les combats qu'il y avait eu et que les gens avaient gagnés. Les Français avaient gagné. Et après, ils sont partis en Bretagne, et de Bretagne, ils ont fini à Wissembourg, en Allemagne. Et après, à la fin de la guerre, soit ils rentraient dans l'armée, ou soit ils rentraient chez eux. Et les trois quarts sont rentrés chez eux parce qu'ils avaient femme et enfants. Moi, j'étais petite, maman avait, j'avais 2 ans, même pas. Donc, tout le monde est rentré dans ses foyers. Et espérons, que ce genre de choses ne se reproduira pas, parce que je ne sais pas comment ça se fait aujourd'hui. Nous faisons ça, mais le marquis de Rémiré a aussi d'autres actions. Il est appelé, bon, pour toutes les cérémonies officielles, que ce soit à Toulouse ou ailleurs. Nous allons à Marsoulas, je ne sais pas si vous connaissez le coin, c'est un village martyr où les gens, il y a eu des bébés qui ont été tués dans les berceaux, enfin plein d'atrocités. Nous allons à Meillan. À Meillan, c'est dans le Gers, où tout le maquis a été décimé, et il y avait 3 individus qui étaient dans le maquis chez nous, à Rien, qui sont partis là-bas. Au bout de même pas 8 jours, ils ont été tués. Dénoncés ou pas, ils ont été tués. Et nous allons également à Ilan-Dodon aussi, parce qu'à Ilan-Dodon, il y a une stèle d'un monsieur qui a été tué aussi. Et puis, entre autres, après, on fait pas mal de sorties. Et chaque fois, c'est vrai que chaque fois, je dis, attention, soyons prudents. Et soyons prudents au terme de résistants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début de la guerre, des résistants, il n'y en avait pas beaucoup.
Non.
Parce qu'on les appelait les terroristes.
Oui.
Parce qu'évidemment, les premiers résistants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par barrer le chemin de fer, à faire sauter les bois de chemin de fer. Comme ça, les Allemands ne pouvaient pas arriver. Entre autres, ils ont fait beaucoup d'actions, hein. En secret, évidemment, hein. Il faut se méfier du mot résistant. Voilà. Les purs et les durs, il n'y en avait pas beaucoup au départ. Voilà, il faut se dire ça. Et vous, soyez bien vigilants pour tout ça.
Merci.
J'espère que vous en tirerez des enseignements, parce que moi, je n'ai pas trop pu vous renseigner, puisque j'étais bébé, mais blanche, et puis...
Oui, comme dit Annie, les résistants, on faisait sauter les bois ferrés, pour ne pas que les trains arrivent, allemands. On faisait sauter tout ce qui leur appartenait.
Les usines aussi.
Les usines...
L'ONIA, par exemple, à l'époque, s'appelait la cartoucherie.
L'ONIA,
la cartoucherie aussi.
L'ONIA, la cartoucherie, tout ça a sauté.
Oui.
C'était tout ce qui appartenait aux Allemands ou aux miliciens, le maquis faisait sauter. Mais on faisait ça la nuit.
En cachette.
C'était très dangereux.
Les vieux parce que...
Parce que s'ils étaient attrapés, là, qu'est-ce qu'ils étaient torturés.
Ah oui. Mais ce que vous intégrez le plus, c'est le mot « liberté ». Il y a des pays encore où on ne peut pas parler ouvertement, dont le mot c'est liberté. Liberté. Et avoir confiance, bien sûr, aux autres aussi, quand même. Voilà. Les messages.
Merci. Merci. Oh non,
c'est pas faux. Sérieusement, tu ne veux pas la remettre.
Cette émission a été réalisée par Alexandra Joss pour l'Association d'éducation aux médias, au monde numérique et à la libre expression Médias communs. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre. Retrouvez tous nos programmes sur ondescourtes.fr, la web radio du libre. Et plus d'informations sur nos ateliers radio et web radio sur mediacommun.fr.